Bien, quant à nous, ce matin, nous allons ouvrir la parole de Dieu dans l'évangile de Jean, au chapitre 21. La semaine dernière, nous avions eu l'occasion de regarder celui qu'on appelle, eh bien, celui qui doute, hein, l'incrédule, celui qui est sceptique, Thomas, et de voir comment, eh bien, il a certes, eu ses doutes, mais il n'était pas le seul, n'est-ce pas? Les autres disciples également, hein, étaient dans la peur, dans la crainte, et de voir que, en fin de compte, eh bien, tous les disciples ont eu un moment, eh bien, de faiblesse spirituelle, un moment de doute, un moment d'incrédulité, jusqu'à ce que le Seigneur vienne et leur parle, et les fortifie, n'est-ce pas? Mais dans ce passage de Jean, chapitre 21, nous allons surtout regarder, eh bien, à partir du verset 15, mais c'est là où le Seigneur, encore une fois, après la résurrection, apparaît à ses disciples qui étaient partis à la pêche, et que le Seigneur va, eh bien, les accueillir sur la plage, le petit déjeuner prêt pour eux, hein, de voir comment le Seigneur prend soin et pourvoit aussi à ses disciples. Mais Jean, chapitre 21, à partir du verset 15, nous lisons, après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? Il lui répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit, suis-moi. Alors ici, dans ce passage, effectivement, nous voyons le Seigneur Jésus, eh bien, s'adresser à Pierre, et nous comprenons bien ici la situation. C'est une situation où, effectivement, eh bien, le Seigneur va devoir aider Pierre à se relever. Je crois que chacun d'entre nous, à un moment donné, dans notre vie spirituelle, dans notre marche avec le Seigneur, il y a eu des moments où on se sentait vraiment mal par rapport à quelque chose que nous avions fait ou quelque chose que nous n'avions pas fait. Quelque chose que l'on a dit ou pas dit, des moments où on savait ce que le Seigneur attendait de nous et nous avons complètement raté ce que Dieu attendait de nous. Et ici, donc, dans ce passage, eh bien, oui, on a cette scène autour, hein, de la mer de Tibériade, sur cette plage où les disciples ont passé la nuit à pêcher les poissons, mais c'était une pêche infructueuse. Et ils sont sur le bateau, ils entendent une voix. On voit ça dans les versets précédents, mais cette voix qui s'écrit « Enfants, n'avez-vous rien à manger? » Au verset 6, après qu'ils aient répondu non, eh bien le Seigneur leur donne des instructions. Et après avoir suivi les instructions, eh bien il y a une pêche miraculeuse qui se produit. Ils ont jeté leur filet et puis ils ont attrapé tellement de poissons qu'ils avaient du mal à tirer ce filet dans la barque. Et cela, c'est quelque part pour moi, c'est un clin d'œil du Seigneur, parce qu'il avait déjà fait quelque chose comme ça pour ses disciples avec Pierre, Jacques et Jean, hein, dans Luc chapitre 5. Et là-dessus, eh bien, nous avons justement Jean, hein, qui reconnaît alors que c'est le Seigneur, Pierre qui va se précipiter à sa rencontre, et là Jésus donc les invite à manger, à se restaurer. Il leur avait préparé ce repas composé de poissons et de pain, hein, peut-être un petit déjeuner typique. Mais là aussi, c'est pas sans rappeler ce que le Seigneur avait fait comme miracle par deux fois en nourrissant la foule malgré l'incrédulité de ses disciples. Et là donc, c'est la troisième fois. C'est la troisième fois que le Seigneur donc apparaît à ses disciples après sa résurrection. Et les disciples donc entendent cette invitation à manger, se rassemblent donc autour de ce feu préparé par le Seigneur. Et c'est un moment d'intimité, c'est un moment hein, où les disciples sont de nouveau avec leur maître. Et on s'imagine vraisemblablement que Pierre, eh bien, en voyant ce feu allumé, peut-être est-ce qu'il pensait à ces charbons allumés auxquels il s'était rapproché la nuit de la restauration du Seigneur, lorsque, eh bien, les gens lui disaient « Mais n'es-tu pas un disciple de cet homme ?» Et que par trois fois, Pierre renia le Seigneur. Comme on l'a vu la semaine dernière, je crois qu'aucun de nous ne pouvons regarder avec jugement hein, ses disciples par rapport à leur choix, par rapport à leurs doutes, par rapport à leurs peurs et leurs craintes, parce que nous ne sommes même pas certains, nous, de ce que nous aurions fait dans de telles situations. Après avoir mangé, on voit le Seigneur donc prendre Pierre à part. Il va discuter avec lui. Et là, on va voir tout l'amour et la tendresse de Christ pour son disciple, pour son enfant dans la foi. Parce qu'on comprend bien qu'après avoir renié trois fois le Seigneur et d'avoir vu également son regard au moment où le coq chanta, on imagine bien les sentiments de honte, peut-être aussi cette douleur hein, qui est associée à une telle situation, et aussi cette pensée que qu'est-ce que le Seigneur va bien pouvoir faire de moi maintenant? Je suis un pécheur, j'ai montré que ma foi était vraiment finalement pas aussi grande que je le pensais. Et je pense que beaucoup d'entre nous avons déjà eu ce genre de sentiment, ce genre de pensée, n'est-ce pas? Et donc, le Seigneur va s'adresser à Pierre et va lui poser cette question, m'aimes-tu? M'aimes-tu? Et le fait même qu'il s'adresse à Pierre en l'appelant Simon, fils de Jonas, eh bien, ça indique que c'est un moment sérieux. C'est un moment sérieux et puis un moment intime. Un peu comme quand les parents, lorsqu'ils doivent reprendre leurs enfants, je ne sais pas pour vous, mais ma mère, elle nous appelait toujours par tous nos prénoms. Hein, Jérémy, Paul, David, Pierre, Daniel, James. C'était toujours la façon de nous faire comprendre, attention, là c'est du sérieux. Et là le Seigneur s'adresse à Pierre, Simon, fils de Jonas. Et on voit dans les Écritures que lorsque Jésus s'adressait à lui de cette façon-là, c'était souvent vraiment pour le reprendre. Comme on le voit dans Luc 22, par exemple. Alors oui, les évangiles nous dressent le portrait d'un disciple qui est plein de bonnes intentions. Hein, lorsqu'on regarde Pierre dans les évangiles, c'est toujours celui qui est prêt à y aller, c'est celui qui est prêt hein, à foncer et à faire les choses. On voit quelqu'un rempli de bonnes intentions, mais dont l'impétuosité, la fierté aurait pu finalement causer sa perte. Mais grâce à ce moment avec le Seigneur, eh bien, ce n'a pas été le cas. À travers l'histoire, et à plusieurs reprises, Pierre a en effet fait l'objet de vives critiques hein, de la part de chrétiens. Hein, c'est celui qui a renié le Seigneur. Mais quand on étudie davantage les Écritures, que voyons-nous? On se rend compte, en fait, encore une fois, que eh bien, nous lui ressemblons. Nous lui ressemblons lorsque nous savons pertinemment bien que, voilà, le Seigneur veut que tu cesses telle activité, et tu le fais quand même. C'est un reniement. Quand le Seigneur nous dit, ça c'est le genre de pensée que je veux que tu aies, et qu'on fasse le choix, eh bien, de suivre d'autres pensées, on renie le Seigneur. Il nous est toujours aisé, oui, c'est vrai, de critiquer hein, quelqu'un tant qu'on n'a pas vécu sa situation. Mais quand on finit par vivre les mêmes choses et qu'on se rend compte de parfois la difficulté de faire les bons choix, la difficulté parfois d'honorer le Seigneur comme on devrait le faire, on se rend compte que finalement, ben, on n'a pas grand-chose à dire. Mais voilà, on a cette image donc de ce Pierre impétueux dans les évangiles, on a cette image de Pierre qui renie le Seigneur, on a cette image de Pierre qui, ici, nous donne l'impression vraiment d'être, j'imagine la scène où quand le Seigneur lui pose les questions, Pierre, il est, oui, tu sais que je t'aime. Peut-être qu'il n'ose même pas le regarder. On ne sait pas, mais on sait que nous, par expérience, quand on a fait du tort à quelqu'un, on a du mal à les regarder dans les yeux, n'est-ce pas? Et après, on arrive au livre des Actes des Apôtres, et là, on voit un Pierre, mais alors complètement transformé, n'est-ce pas? Cette peut-être fougue et impétuosité qu'il a, on la retrouve, mais dans le bon format. On voit ce courage de Pierre. Un Pierre qui n'a plus honte du Seigneur, un Pierre qui n'a pas peur d'affronter les foules, qui n'a pas peur d'affronter les pharisiens, on retrouve un Pierre complètement transformé. Et la raison pour cela, c'est ce que nous lisons dans ces versets 15 à 19. C'est ce moment où le Seigneur va, avec tendresse et avec amour, reprendre son disciple et le restaurer. Le relever. La question du Seigneur, ici, qu'il adressa à Pierre, doit nous interpeller nous-mêmes. Si le Seigneur aujourd'hui nous posait cette question, m'aimes-tu? Est-ce qu'au cours de cette semaine, nous aurions, eh bien, de quoi dire, Seigneur, oui, tu as vu cette semaine, je t'ai aimé parce que j'ai fait ça, ou je n'ai pas fait ça, ou j'ai agi de cette façon, ou pensé de cette façon, tu sais que je t'aime. Mais est-ce que nous pourrions répondre avec honnêteté et avec certitude, Seigneur, oui, tu sais que je t'aime. Nous allons donc regarder à ce passage et en tirer quelques leçons spirituelles pour nous-mêmes qui, j'espère, nous aideront à pouvoir répondre à cette question du Seigneur, eh bien, avec honnêteté et avec force et avec courage. Mais aussi pour que si en ce moment dans notre vie nous estimons que je suis dans le même état que Pierre à ce moment-là, qu'est-ce que le Seigneur va pouvoir faire de moi? Je peux pas être utile pour le Seigneur. Et alors regardons à ce passage et voyons comment eh bien, le Seigneur a pu transformer le cœur de Simon-Pierre. Je crois que la première chose que nous devons considérer dans cette histoire, ici, dans ce récit, il est évident que la première étape, c'est toujours d'admettre notre faillite spirituelle. C'est de reconnaître que nous avons mal agi, c'est de reconnaître notre faiblesse. Pierre, m'aimes-tu? Pourquoi cette question? Cette question a été posée parce que le fondement et la base de notre relation avec le Seigneur Jésus, c'est l'amour. L'amour de Dieu pour nous, mais aussi l'amour que Dieu attend de nous en retour. Et à la lecture de ce passage, nous devons considérer non pas seulement tout le contexte de la relation de Pierre avec le Seigneur, mais nous devons aussi regarder à notre relation avec Christ. Le fondement de cette relation, c'est l'amour. Et il est donc logique de répondre à l'amour de Dieu pour nous par un amour pour Dieu qui soit identique. Ce passage nous montre encore une fois que notre état spirituel, eh bien, importe au Seigneur. Hein, je crois que souvent on a l'impression qu'on arrive à se fondre un peu dans la masse, dans l'église, etc. Et que bon, voilà, je vis un petit peu ma vie chrétienne, etc. Mais qui s'en préoccupe? Peut-être certains dans l'église vont par amour, eh bien, se préoccuper de la vie spirituelle d'un frère, d'une sœur et l'aider dans sa foi. Mais parfois, certains chrétiens peuvent se demander, mais est-ce que ça importe vraiment au Seigneur? Est-ce qu'il m'aime vraiment? Et ici, par amour, le Seigneur va donc prendre Pierre à part, l'isoler, pour discuter avec lui tête à tête. Pierre, à ce moment-là, oui, il est pleinement conscient de sa faillite spirituelle. Non seulement parce que pendant la nuit où le Seigneur a été arrêté, il avait été averti auparavant qu'il allait le renier. Et finalement, ça se produit et il se rend compte de ce qu'il vient de faire. il est rempli de tristesse. Rempli de tristesse. Parce que lui qui pensait avoir une haute opinion de lui-même, de sa foi, qui pensait être vraiment un vaillant héros de la foi, il se rend compte que finalement, eh bien, ses actions n'ont pas suivi ses paroles. Et donc, par trois fois, le Seigneur va pousser Pierre à considérer, eh bien, le fondement de sa relation avec le Seigneur. Trois fois, Pierre a renié Christ. Trois fois, le Seigneur va lui poser cette question, m'aimes-tu? Et si le Seigneur a posé ces questions à Pierre, c'est, je pense, vraisemblablement pour lui rappeler que par trois fois, donc, il l'avait renié. Vous le savez, vous l'avez entendu plusieurs fois dans nos prédications, que dans le Nouveau Testament, nous retrouvons trois mots qui peuvent être traduits par amour. Dans le grec, il y a le mot storgé qui est cet amour filial, cet amour qui existe au sein d'une famille. Hein, l'amour qui existe entre une fratrie, entre des enfants et leurs parents. L'amour filéo, qui est un amour qui est affectif, fraternel, amical. Et puis, il y a cet amour agapé. Cet amour que le Seigneur a manifesté. Cet amour par lequel il nous a commandé d'aimer Dieu, d'aimer son prochain, etc. C'est cet amour sacrificiel et inconditionnel. Et le Seigneur, lorsqu'il pose cette question à Pierre, eh bien, c'est ce mot agapé que nous retrouvons. Pierre, m'aimes-tu? Et chose intéressante, et je sais que bon, dans les versions un peu plus récentes de la Bible en français, ils font cette distinction-là, mais dans cette version de Second 79, on emploie ce mot amour à chaque fois, mais tu sais que je t'aime, tu sais que je t'aime. Mais le mot que Pierre emploie ici dans le grec, révèle un peu surtout bien son état d'esprit. Parce que c'est un amour, on va dire, qui n'est pas celui que le Seigneur attend. Le Seigneur lui pose la question, m'aimes-tu, avec ce mot agapé, m'aimes-tu d'un amour sacrificiel, d'un amour inconditionnel? Et en fait, Pierre répond en employant le mot philéo. Tu sais que j'ai de l'affection pour toi. Il répond à demi-mot, finalement. Est-ce que nous pourrions effectivement répondre au Seigneur si nous posait cette question, m'aimes-tu, de répondre « Oui, je t'aime de cet amour sacrificiel et inconditionnel. Je suis prêt. » Pierre, il a dit « Je suis prêt à mourir avec toi, hein, de te suivre jusqu'au bout. » Mais entre le dire et ensuite suivre les mots, suivre notre proclamation d'amour, il y a une grande différence. Aurions-nous cette honnêteté peut-être aussi de Pierre, de reconnaître « Seigneur, tu sais que j'ai pas cet amour agapé encore. J'ai de l'affection pour toi. Mais j'ai encore du mal. » Pierre sait pertinemment bien que son amour pour Christ a montré ses limites le soir où le maître a été arrêté. Ce reniement, il est encore frais dans sa mémoire. Et c'est d'autant plus accentué par le fait que comme on l'a souligné, peut-être par orgueil, hein, il clamait haut et fort que jamais il n'abandonnerait le Seigneur. Il est évident qu'à ce moment-là, Pierre ne se voit plus comme même capable, même digne, de servir le Seigneur. Beaucoup de chrétiens sont dans cette pensée que parce que, voilà, mon péché ou mon manque d'amour ou mon manque de foi, le Seigneur ne peut pas m'employer pour son service. Et on trouve des chrétiens qui sont passifs, des chrétiens qui sont présents, mais des chrétiens qui ne sont pas actifs dans leur vie spirituelle, dans la vie de l'Église. Oui, Pierre ici, il a failli, il a raté dans ce qu'il se vantait d'être capable de faire, de suivre le Seigneur jusqu'à la mort. Il a complètement raté. Mais combien de fois nous aussi, nous avons complètement raté? Combien de fois nous-mêmes nous sommes conscients de la faiblesse de notre amour pour le Seigneur? Mais le Seigneur, il connaît. Il connaît nos cœurs. À travers les évangiles, on voit plusieurs fois que le Seigneur savait pertinemment ce que les gens pensaient, ce qu'ils ressentaient. Il connaît nos luttes, il connaît nos faiblesses. Mais d'où vient donc cette faillite, cette faiblesse spirituelle? La faillite spirituelle vient de ce que, voilà, nous placions l'essentiel de notre relation sur nous-mêmes au lieu du Seigneur. Sur nos forces, sur nos capacités, sur nos talents peut-être, sur notre réputation, et non pas sur Christ lui-même. Dans les versets précédents, cette pêche miraculeuse a eu un but précis. Le Seigneur n'a jamais fait, rien fait comme ça, juste de manière aléatoire. Il y avait toujours un but dans ce qu'il disait, dans ce qu'il faisait. Cette pêche, elle a eu pour but de rappeler aux disciples qu'il est réellement le Fils de Dieu. Et il a toute puissance. Ça a manifesté aussi son omniscience, parce qu'il savait, les poissons sont juste là. De l'autre côté. Allez. Mais on voit aussi ses provisions, ses tendres soins. Il répond aux besoins physiques en leur donnant à manger, aux besoins émotionnels, aux besoins spirituels. Mais en considérant ici la conversation entre le Seigneur et Pierre, nous voyons que Christ montre que lorsque l'on œuvre par nos propres forces, les disciples, et on vous rappelle que certains d'entre eux, c'était des professionnels de la pêche, que ces disciples n'ont pas réussi à accomplir ce qu'eux, ils étaient capables de faire, normalement. Mais que le Seigneur leur a montré où pêcher et que le Seigneur a fait en sorte qu'ils aient été capables de sortir du poisson. Lorsque nous œuvrons par nos propres efforts sans pleinement compter sur la puissance de Dieu, nous n'allons pas être capables de produire les fruits spirituels que le Seigneur attend de nous. Et le résultat, ça va être cette même faillite spirituelle que nous pouvons constater chez Pierre à ce moment-là. Et il y a donc aussi une deuxième réalisation qui est nécessaire pour nous. Il nous faut comprendre que le plan de Dieu va toujours s'accomplir malgré notre faillite. Le Seigneur veut nous impliquer dans son œuvre et il a prévu les choses pour nous. Il a prévu, il a déjà donné des dons spirituels à chacun de ses enfants et qu'il veut qu'ils emploient ces dons spirituels pour l'œuvre ici-bas. Mais que malgré notre faillite, le plan de Dieu va toujours s'accomplir. Et on voit ça constamment à travers les Écritures. On le voit dans l'Ancien Testament, comment à chaque fois Israël, eh bien, a complètement raté, mais le Seigneur, lui, a préservé son plan, a préservé son peuple pour que le Messie puisse naître, pour que, eh bien, ce salut incomparable, unique, parfait en Jésus-Christ, eh bien, puisse être accompli sur la croix de Golgotha. Comme nous l'avons vu, le texte en français ne donne pas forcément justice à la pleine valeur des mots que le Seigneur emploie ici. Cet amour dont il est question, comme je l'ai dit, c'est cet amour agapé, cet amour sacrificiel, inconditionnel, immérité. C'est cet amour dont Dieu nous aime et il attend de notre part que, eh bien, nous aimions le Seigneur. D'un amour inconditionnel. C'est ce même amour que nous devons avoir les uns pour les autres. C'est ce même amour que nous devons avoir pour notre prochain, qui qu'il soit. Mais c'est un amour qui vient de Dieu. Les Écritures nous disent que Dieu est amour. Et on comprend que cet amour agapé, cet amour qui est l'essence même de Dieu, c'est en lui que nous devons le puiser. Et bien que Pierre ici réponde par un amour qui, ouais, il est faible. J'ai de l'affection. Oh, c'est bien, c'est beau. Mais Pierre, il reconnaît aussi que il n'a pas encore cet amour agapé qu'il devrait avoir. Mais notez bien que malgré cela, que fait le Seigneur? Le Seigneur lui confie une mission. Nourris mes agneaux. Nourris mes agneaux. Parce que ça, c'est le terme qui est employé. Parce que ici, encore une fois, parfois, on a le verbe paître, en français. Mais le terme que Christ, il emploie ici, c'est vraiment celui de nourrir. Nourrir des agneaux, des nouveau-nés, des bébés spirituels. Nourris-les. Ensuite, la deuxième fois, quand Pierre lui dit, tu sais que j'ai de l'affection, le Seigneur lui dit ici dans le grec, dirige mes brebis. C'est le verbe poimeno. C'est celui d'être un berger, un pasteur, c'est-à-dire diriger. Et la troisième fois, encore une fois, eh bien ici, c'est de nourrir les brebis. Donc nourrir les agneaux, les nouveau-nés spirituels, de les diriger, mais notez bien des brebis, c'est-à-dire que c'est déjà amené à un état adulte, et de continuer donc de nourrir les brebis du Seigneur. Malgré la faiblesse de notre amour pour le Seigneur, malgré eh bien nos faillites, le Seigneur cherche encore à nous confier des responsabilités. C'est ce qu'il a fait avec Pierre. Et avec Pierre, c'était des responsabilités spirituelles importantes. Nous pouvons douter, parce que moi je ne sais pas, j'y arrive pas, je ne suis pas capable, j'ai déjà montré mes faiblesses, etc. Mais n'oublions pas que nous avons un Dieu qui est omniscient. Nous avons un Dieu qui nous donne tout ce dont nous avons besoin pour vivre pour lui et pour le servir également. Il connaît la valeur de notre amour pour lui. Et je dirais que malgré cela, il nous appelle tous à le servir dans l'église locale, à le servir dans notre témoignage envers les perdus. Ici, il est question de ce que Pierre connaisse la valeur de l'amour de Dieu pour lui. Et Pierre, il est conscient de l'amour de Dieu pour lui, mais il ne voit que sa faiblesse à lui, il ne voit que ses faillites à lui. Ici, le Seigneur, il veut que Pierre se rende compte que malgré cette faiblesse, malgré ses faillites, ça n'a pas changé l'appel de Dieu pour sa vie. Christ lui confie quand même cette tâche importante. Notre chair, hein, ce que la Bible désigne comme eh bien, ce qui est cette nature pécheresse, hein, celle qui nous incite, qui nous attire vers le péché, hein, ce vieil homme, cette vieille nature charnelle, l'adversaire, le monde également, hein, ce monde qui vit dans ce système charnel qui suit les pensées de l'adversaire, tout cela, hein, il cherche constamment à nous détourner du plan de Dieu pour notre vie. À chaque fois que nous allons vouloir servir le Seigneur, vous pouvez être certain que notre chair va lutter contre cela. À chaque fois que nous allons prendre la décision de « Oui Seigneur, je vais faire ça pour toi », vous pouvez être certain que l'adversaire va être là pour empêcher que cela se produise. Vous connaissez bien le récit des évangiles. Et on a pu constater que ce soir-là, oui, tous les disciples, à part deux, hein, se sont enfuis. Mais il y a eu deux disciples qui finalement ont montré peut-être une forme de trahison, hein, chez Pierre, mais la trahison de Judas. Et on voit deux résultats complètement différents. Entre deux hommes qui, parce que Judas aussi, il a regretté amèrement ce qu'il avait fait. Tout comme Pierre, hein, était rempli de tristesse après avoir compris qu'il avait renié le Seigneur. Et ces deux hommes, avec, on va dire, deux choix différents. Judas, il a vu aucune alternative. Il n'a vu aucune issue de secours. Il n'a rien vu de ce qu'il pouvait faire à ce moment-là pour être lui-même racheté, pour être lui-même restauré, relevé. Et il a fini par se donner la mort. Et Pierre, il est dans cet état d'esprit certainement de peut-être de déprime, cet état d'esprit hein, de qu'est-ce que moi je peux faire pour le Seigneur? Je suis nul finalement. J'ai complètement raté. Lorsque nous faisons faillite ainsi, oui, il est facile de tomber dans ce piège de l'abandon, de la dépression, de se donner cette image que je suis nul, je ne peux rien faire. Mais avec ça, on associe l'idée que même Dieu ne pourrait rien faire de nous. Et ça devient vite un problème de foi. On se sent, on se voit comme étant inapte, comme indigne de servir Christ. Est-ce que Pierre avait montré la faiblesse de sa foi? Oui, comme tous les autres disciples. Mais dans sa grâce, ici, le Seigneur ne le laisse pas dans cet état d'esprit. Et son plan pour Pierre, pour la vie de Pierre, était toujours d'actualité. Nourris mes agneaux, dirige mes brebis, nourris mes brebis. Qu'est-ce que ça nous montre? Ça nous montre que même avec un amour qui n'est pas aussi fort que cet amour agapé, même si nous avons de l'affection pour le Seigneur, nous sommes conscients de cette faiblesse-là dans ce domaine de l'amour, le plan de Dieu ne change pas. Les responsabilités qu'il confie à ses disciples ne changent pas. Et il attend toujours à ce que nous répondions favorablement à son appel, mais aussi que, eh bien, nous nous efforcions à remplir cet appel dans notre vie. Notre amour pour le Seigneur doit effectivement nous presser à le servir. Le plan de Dieu pour notre vie ne s'arrête pas parce que nous avons failli, parce que nous avons fauté, parce que nous avons chuté. L'objectif de Christ ici est de faire en sorte que Pierre comprenne que l'appel de Dieu est toujours présent. À la troisième question du Seigneur, le terme philéo, affection, est employé. Pierre, m'aimes-tu? Agapé. Pierre, m'aimes-tu? Agapé. Et finalement, Pierre, m'aimes-tu? Affection. Et là, peut-être que c'est pour ça que Pierre ressent cette tristesse. Lorsqu'il entend la troisième fois le Seigneur lui poser cette question, m'aimes-tu, mais en employant cette fois-ci le mot philéo. Christ montre que même un amour inférieur à l'amour agapé, tel que cette affection, devrait quand même susciter en Pierre le désir et la volonté de le servir. Mais voilà, pour servir Christ, il y a une troisième chose ici à relever. Et nous voyons ça dans les versets 18 à 19. Il s'agit pour nous d'abandonner entièrement notre vie à Christ. En vérité, je te l'ai dit, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te saindra et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit, suis-moi. Dans sa première question, le Seigneur a incité Pierre à considérer la valeur de son amour pour lui. Et il pose cette question, m'aimes-tu plus qu'eux? En verset 15, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? Le premier danger est vraiment de fonder notre relation avec le Seigneur sur nos propres compétences, nos capacités et non pas sur sa puissance. Lorsque nous faisons face à notre faiblesse, il est facile de se laisser séduire par une vie plus simple ou par notre ancienne vie. En se disant, la vie avant Christ, c'était peut-être encore plus facile. Beaucoup de chrétiens ont cette pensée-là. Lorsqu'ils font face aux épreuves, lorsqu'ils font face aux difficultés, lorsqu'ils font face à leur propre faiblesse. Et ici, dans la question que le Seigneur y pose, eh bien, le grec, ici, semble montrer que la question de Christ ne portait pas forcément sur l'amour que les autres disciples avaient, mais semble se porter sur l'amour que Pierre portait sur sa vie ancienne, sa vie de pêcheur. Et donc voilà, ici, dans la traduction, on peut regarder à ce texte de ces deux façons-là. M'aimes-tu plus que ne m'aime ceci, ou bien m'aimes-tu plus que tout ceci-là? C'est ta nuit à passer à la pêche. Que cette vie-là. Parce que peut-être que oui, Pierre avait à l'esprit cette vie passée. Il avait peut-être encore des choses dans sa vie qu'il devait abandonner afin de pouvoir pleinement servir Christ. Comprenons bien que le piège de l'adversaire, c'est de nous faire sentir si inaptes et incapables que l'attrait de notre vie passée, de notre vie avant Christ, surgisse et devienne si fort qu'au final, nous n'accomplissions plus rien pour le Seigneur. Et on se retrouve à simplement flotter. On est chrétien, mais voilà, on ne va pas être différent du monde. On va être chrétien, mais notre engagement pour le Seigneur, eh bien, s'arrête simplement au fait de « je suis chrétien, je vais à l'église ». Abandonner notre vie au Seigneur n'est-il pas la réponse au fait que lui-même ait donné sa vie pour nous? Abandonner notre vie au Seigneur implique notre volonté personnelle, implique que notre volonté personnelle, pardon, s'aligne à la volonté de Dieu. Si vous voulez bien regarder dans Matthieu chapitre 16, Matthieu chapitre 16 au verset 21, nous lisons, dès lors Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. S'il y a une chose que nous devons bien comprendre, c'est que si nous sommes maîtres de nos décisions, nous ne sommes pas maîtres de notre vie. Nous sommes maîtres de nos décisions et de nos choix. Et lorsque le Seigneur interpelle Pierre et lui dit si, suis-moi, il ne fait que réitérer ce premier appel lorsqu'il le rencontra la première fois. Suivez-moi, suis-moi, et je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Ici, Pierre fait face à cet appel pour sa vie. Suis-moi. Christ y rappelle à Pierre que son attention ne devrait pas se porter sur qui ou quoi que ce soit, qui que ce soit d'autre, mais sur sa propre relation. Lorsque Pierre se retourne et pose la question, et eux alors? Non, occupe-toi de ta vie spirituelle. Toi, suis-moi. C'est à toi que je m'adresse. Et donc suivre Christ implique un abandon de sa vie, de ses propres désirs et envies, de dire Seigneur, oui, prends tout, comme nous le chantons. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, n'est-ce pas? C'est ce que le Seigneur avait dit. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Il y a donc un choix important à faire. Et c'est un choix qui est pour tout le monde. Souvent on pense, oui, ben ça c'est pour les pasteurs et les évangélistes missionnaires, hein, il faut qu'ils prennent cette décision-là. Non, c'est ce que Dieu veut de tous ses enfants. Tout comme le jeune homme riche, hein, qui devait choisir entre ses richesses et suivre Christ. Pierre, il est confronté à ce même choix. Hein, ce jeune homme riche, lorsque le Seigneur lui a dit, va, vends tous tes biens et suis-moi. Donne-le aux pauvres et suis-moi. Qu'est-ce qu'a fait le jeune homme? Il est parti tout triste. Parce que son amour pour sa richesse, pour sa vie, était plus grand que son amour pour le Seigneur. Il avait compris qui était Christ, il avait compris qui il avait en face de lui, mais son amour pour ses richesses, pour sa vie, était plus grand. Et là, Pierre, il fait face à ce choix. Et peut-être que le Seigneur vous a déjà amené à considérer ce choix à faire dans votre vie. Peut-être c'est une carrière professionnelle. Peut-être, oui. C'est le confort d'une certaine vie. Peu importe. Pierre est confronté à ce choix. Et c'est ce choix qui va définir le reste de sa vie. Qui va définir sa relation avec Christ. M'aimes-tu? Ce choix, nous devons tous le faire. Allons-nous laisser peut-être nos faillites, nos faiblesses nous définir? Allons-nous laisser peut-être cette vie passée ou bien les rêves que propose ce monde, eh bien nous détourner de ce que Dieu a prévu pour nous lorsque celui-ci nous a manifesté son amour en donnant sa vie sur la croix, en ressuscitant des morts, en nous accordant sa grâce, une grâce éternelle, et que il nous demande, m'aimes-tu? Parce que moi, je t'aime. Considérez également la multitude d'exemples que nous avons dans les Écritures, de personnes qui, au premier abord, oui, auraient pu dire, mais non, moi je ne suis pas capable. Ce que j'ai fait dans ma vie, ça me rend... je ne peux pas. Je ne peux pas suivre Christ, je ne peux pas le servir. Considérez les exemples que nous avons dans les Écritures, de ceux que l'Éternel a choisis pour que son plan s'accomplisse. On connaît Noé le juste, hein, avec l'histoire du déluge. Mais Noé est tombé dans l'ivrognerie. On pourrait penser, mais je suis peut-être trop âgé pour servir le Seigneur maintenant. Rappelez-vous de quel âge Abraham avait lorsque le Seigneur l'appela. Considérez Jacob, hein, qui était celui qui allait devenir Israël. Qui était-il? Un menteur et un tricheur. Joseph qui a subi les abus, hein, de la part de ses frères, l'injustice, hein, de la part de la société. Moïse, hein, qui avait soi-disant un problème d'élocution. Gédéon qui avait peur. Samson qui courait après les plaisirs du monde, un coureur de jupons. Rahab qui était une prostituée et qui a été intégrée dans la lignée messianique. Samuel, oh, il était trop jeune, n'est-ce pas, pour servir le Seigneur. David n'était qu'un jeune garçon face au géant Goliath. Et même par la suite, David aussi a été un adultère, un meurtrier. Élisée qui avait des pensées suicidaires. Jonas également. Pensez à Job qui avait tout perdu. Jean-Baptiste qui a erré dans le désert, qui a mangé des miels et des insectes. Pensez à cette femme samaritaine qui avait eu plusieurs maris, qui avait divorcé plus d'une fois et qui vivait dans le concubinage. Pensez à toutes ces personnes que le Seigneur a délivrées. Pensez à André, hein, qui a vécu peut-être dans l'ombre de son grand frère, hein, de la maman, hein, de Jacques et de Jean, hein, qui a montré quand même pas mal d'ambition un peu calculatrice, hein, à chercher à placer ses enfants à un bon poste. Tous les disciples qui se sont endormis quand ils devaient veiller et prier avec le Seigneur. Les disciples qui se sont enfuis quand Jésus fut arrêté. Pierre qui a renié 3 fois le Seigneur. Pensez à tous ces hommes qui, et femmes, qui ont montré leur faillite, qui n'étaient pas des personnes capables, mais que le Seigneur a employé et a rendu capables. Pensez à Saul de Tarse, qui était un blasphémateur, un persécuteur de l'Église, un meurtrier. Lui-même, suite à sa conversion, s'est vu comme le plus grand des pécheurs. Celui qui avait cette écharpe dans la chair et qui a dû apprendre à vivre selon la grâce de Christ. Et quand nous arrivons à Pierre, dans le livre des Actes, comme j'ai dit, c'est un Pierre qui est transformé. Ce n'est plus le même homme. Voilà ce que le Seigneur est capable de faire dans la vie de chacun d'entre nous. Si donc Dieu a pu transformer Pierre, transformer les disciples, transformer Saul de Tarse et tant d'autres chrétiens à travers les siècles qui ont eu des vies les plus choquantes, les plus mauvaises, et que le Seigneur a transformé et a fait de ces personnes des lumières puissantes pour son évangile, pensez à ce qu'il peut faire dans votre vie. Dieu ne cherche pas les choses fortes. Dieu emploie les choses faibles. Parce que c'est par sa force et sa puissance que son œuvre s'accomplit. Si le Seigneur vous posait donc aujourd'hui cette même question, m'aimes-tu? M'aimes-tu au point de sacrifier ta vie? M'aimes-tu en toute situation, même lorsque il s'agit de montrer aux autres que tu es un de mes disciples. Est-ce que nous lui répondrions d'un amour agapé, d'un amour philéo, d'une affection? S'il nous demandait « Suis-moi » et il le fait, que ferions-nous? Serions-nous comme ce jeune homme riche? Ou serions-nous finalement comme Pierre, qui après avoir été restauré et relevé, a fidèlement servi le Seigneur toute sa vie. Rappelons-nous de ceci. L'amour de Dieu pour nous, cette grâce manifestée en Christ, cette vie nouvelle accordée par l'œuvre du Saint-Esprit qui nous rend capables d'aimer Christ d'un amour agapé, eh bien, il faut effectivement que nous admettions notre faillite spirituelle, notre incapacité à faire les choses par nous-mêmes, que nous acceptions que le plan de Dieu pour notre vie sera toujours là malgré notre faillite. Et finalement, cette nécessité de tout abandonner au Seigneur. Débarrasse-toi de tout ça et suis-moi. Et vois ce que je suis capable de faire pour toi, par ta vie, à travers ta vie. Le fait est, c'est que nul d'entre nous, nous sommes capables de servir le Seigneur par nous-mêmes. Nul d'entre nous, nous sommes capables de vivre une vie chrétienne parfaite. Nous, nous allons changer. Nous, nous allons avoir des pensées qui vont peut-être nous détourner du Seigneur. Mais ce qui est toujours assuré et certain, c'est que Christ est toujours là. Et son appel pour nous est toujours là. Et ce qu'il veut faire à travers notre vie sera toujours là. Et en regardant donc aux exemples de Pierre et d'autres comme Paul, qu'avons-nous à hésiter? Qu'avons-nous à hésiter? À dire au Seigneur, tu sais que mon amour pour toi est faible. Tu sais même que ma foi est faible. Mais on voit dans ta parole que même des gens qui ont une foi faible, une foi imparfaite, un amour imparfait, eh bien tu as su les transformer et les employer. Et pour nous de répondre au Seigneur que fais ton œuvre dans ma vie. Fortifie ma foi, fortifie mon amour pour toi. Aide-moi à te servir. Aide-moi à faire les choix qui t'honorent et qui te glorifient. Quand le Seigneur voit une telle disposition de cœur, c'est là que nous voyons les grandes choses s'accomplir dans notre vie et par notre vie. Alors, qu'allons-nous répondre à la question de Christ? M'aimes-tu? Prions.